sommes-nous devenus des citoyens appauvris aux idées sombres et doutant de leur existence rompue à l'ordre libéral d'une démocratie corrompue, du tirage au sort favorisant les inégalités, régie par un gouvernement trumpiste qui se donne l'air d'avoir toujours raison et se donne bonne conscience sous prétexte de défendre une morale laïque et qui préfère écraser la désobéissance civile plutôt que de redonner un sursaut à notre intelligence collective, mettant un point d'orgue à investir dans le progrès et l'intelligence artificielle dont on doute franchement de sa perspicacité, au détriment de nous, citoyens, qui auraient peut-être les idées moins sombres si, par exemple, on légalisait le cannabis que peut-être fumait Descartes en son temps lorsqu'il séjournait aux Pays-Bas et se questionnait sur son ego. Alors, fake ou space cake ? Mais je m'en mêle les stylos. Si vous-même vous posez des questions similaires en votre fort intérieur, je vous conseille vivement de vous jeter sur le recueil de chroniques philosophiques de notre invité, professeur de philosophie au lycée Jean Moulin de Pézenas, qui depuis 2014 s'empare de l'actualité locale pour, je cite, « pointer du doigt un problème parfois caché dans les détails d'une réalité et proposer des concepts pour penser ce problème ». Chronique par Mons et par Vaux est publiée dans Clémaculture en cœur des Hauts et écrit par Christophe Gallic. Bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe, on se connaît bien, je participe à des ateliers avec toi au Music Club du lycée de Pézenas et c'est très agréable de pouvoir présenter ton travail en dehors du lycée. Quoi.
Ouais. C'est très agréable d'entendre une intro qui fait comme ça un peu la synthèse de beaucoup de thèmes qui sont dans ce recueil, bravo.
Des questions, en effet, vous en êtes et vous nous en posez beaucoup dans ce recueil qui compte près d'une cinquantaine de chroniques.
Oui, c'est ça, ouais. Enfin, je m'en suis posé beaucoup, c'est un travail sur 6 ans. Entre 2014 et 2020, lorsque j'étais professeur non pas à Jean Moulin à Pézenas, mais au lycée Joseph Vallot de l'Odève, j'ai travaillé avec CELMAG, qui est une revue gratuite, et qui m'a demandé de faire des chroniques en partant de questions d'actualité, donc au fil des différents événements qu'on a connus hein, depuis la réforme des régions, c'était le premier thème, jusque bien entendu à la Covid, le confinement et tous les problèmes que ça a occasionné à cette époque.
Les chroniques sont organisées en 5 thèmes, la politique, la société moderne, les intelligences artificielles, le sens de l'existence et les philosophes face à la réalité.
Tout à fait. Alors ça, c'est un peu une reconstruction, hein, parce que quand j'écris les chroniques, c'est vraiment par rapport à des problèmes d'actualité. Et au moment de réaliser ce recueil, parce qu'on voulait absolument que ce soit publié, que ce soit pas simplement sur Internet ou dans une revue trimestrielle, on a réorganisé ça par des thèmes qui semblaient être dominant dans ces chroniques. Donc c'est un travail de réorganisation.
Ce sont des chroniques donc qui traitent de l'actualité locale autant que mondiale oui. Et qui sont non dénuées d'humour, notamment une des chroniques qui s'appelle « Descartes et le cannabis, fake ou space cake oui. » justement.
Alors là, ça, c'est pas moi qui suis à l'initiative de cette blague, hein, parce que c'est une blague, hein, bien entendu, Descartes ne fumait pas de cannabis, il n'y avait pas de trafic de cannabis à l'époque, Amsterdam n'était pas la capitale que l'on connaît aujourd'hui, mais en revanche, c'est un petit livre qui est paru au début des années, à la fin des années 90, par un journaliste du Canard Enchaîné qui, à sa manière, a voulu fêter l'anniversaire, les 400 ans de la naissance de René Descartes. Et comme je l'explique dans ma chronique, un élève à l'oral du baccalauréat est venu avec ce livre expliquant que c'était la vérité bien entendu cachée. Donc il y avait cette histoire de la théorie du complot déjà qui commençait à montrer le bout de son nez. Et du coup, voilà, c'est une chronique globale sur la vérité et la relation que nous avons avec la vérité, parfois une relation un peu affective que nous avons avec la vérité. Voilà, donc c'est un bon exemple d'une chronique qui n'est pas basée sur l'actualité de l'Odève, l'Odève n'étant pas la capitale du monde, mais sur un thème récurrent dans l'actualité, fake news, puisque avec notamment Donald Trump, on a assisté à des situations ubuesques.
Un des collaborateurs de cet ouvrage est Stéphane Pall de la librairie Un Point Un Trait de l'Odève, donc quelqu'un que vous connaissez bien aussi.
Oui, je le connais très bien. C'est lui qui est à l'origine du projet, hein, puisqu'il cherchait des plumes pour sa revue gratuite CELMAG, qui était mensuelle à l'époque. Et son plaisir, c'était de trouver des personnes qui, dans leur domaine, que ce soit la nature, que ce soit la politique ou la philosophie, puissent faire des petites chroniques. donc le deal au départ, c'était véritablement de présenter des philosophes. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir la capacité d'expliquer les grandes philosophies, mais que ce soit à la portée de tous, tout en étant exigeant. Donc c'était un petit travail d'équilibriste, parce qu'en philosophie, c'est pas évident de pouvoir expliquer. Au départ, c'était en 7000 caractères, donc ça fait à peu près une page et demie. C'est vraiment très, très court. Mais on a réussi, hein, et notamment grâce à lui, parce qu'on a fait un gros travail. Enfin, il faisait un gros travail de relecture de ses chroniques pour qu'elles soient intelligibles.
Eh bien, plongeons-nous justement dans une de ces chroniques que vous nous avez ramenées, qui est titrée « Inégalité sociale et discrimination positive », et qui va traiter aussi de la ville de Lodève.
Donc, c'est une chronique, effectivement, qui est née là d'une situation à la fois très locale à Lodève, mais en même temps assez nationale, qui est la question de la réduction des moyens dans l'école. Je vous lis. Les écoles primaires de Lodève ont entamé, ce mois de février 2018, un mouvement de résistance pour garder leurs moyens spécifiques. Régulièrement, nous voyons ainsi des citoyens se mobiliser pour réclamer des moyens supplémentaires pour l'éducation de leurs enfants, notamment dans des zones défavorisées. Le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau expliqua à de nombreuses reprises que c'est ce droit de réclamation qui est le vrai fondement de la démocratie. Nous allons voir pourquoi, dans ce cas précis, c'est justifié. John Rawls, né en 1921 et mort en 2002, est sans aucun doute le philosophe américain dont l'œuvre fut la plus discutée au cours du XXe siècle. En effet, en 1971, il publia « A Theory of Justice » où il abordait une question fondamentale. Qu'est-ce que la justice? Et est-ce qu'une société qui a pour idéal la justice peut supporter les inégalités entre les citoyens ayant les mêmes droits? La question est vieille de plusieurs siècles et plus précisément depuis 1755, lorsque Jean-Jacques Rousseau publia son célèbre « Discours sur l'origine et les fondements des inégalités entre les hommes ». Il expliquait qu'il y avait deux sortes d'inégalités, les inégalités naturelles, l'un est né fort, l'autre chétif, etc. et les inégalités sociales, l'un est riche, l'autre pauvre. La question de savoir comment apparurent ces inégalités est une question presque insoluble. Il faudrait pour cela remonter au premier temps de l'humanité, et Rousseau développe toute la première partie de son discours pour comprendre comment cela fut possible en introduisant, par là même, la notion d'histoire dans la philosophie. Mais ce n'était que des spéculations. Plus intéressant est de se demander pourquoi ces inégalités sont acceptées par tous. Qu'est-ce qui a pu transformer ce qui est illégitime en droit acceptable ? Rousseau, qui vivait à une époque, celle de la monarchie absolue, où les privilèges étaient inscrits dans la loi. La Révolution française et l'abolition des dix privilèges en août 1789 sont passés par là. La France, depuis, a l'idéal de l'égalité des citoyens, au moins en droit. Et cet idéal est mis à mal par la réalité de plus en plus flagrante des inégalités sociales qui ont cours en France. Par exemple, tous les rapports sur l'éducation nationale montrent que le parcours des élèves et leur niveau scolaire dépendent de plus en plus de leur origine sociale. Et le classement PISA de 2016 montra non seulement que la France avait un niveau médiocre parmi les pays de l'OCDE, 26e position, mais que de plus, l'écart entre nos meilleurs élèves qui fréquentent les lycées bourgeois de centre-ville et les moins bons ressemblait de plus en plus à un gouffre. Est-ce que cela est juste? Bien sûr que non. La question n'est que rhétorique. Et personne ne peut soutenir que les inégalités sociales sont justes. Et tout ceci ne reste que théorie et spéculation si nous ne l'appliquons pas au réel. La philosophie ne doit pas être qu'un discours. Il faut qu'elle puisse nous permettre de comprendre notre réalité. Nous voyons ainsi la concrétisation de ce problème directement à Lodève, avec la question des écoles primaires qui ont plus besoin de moyens que d'autres. La question n'est pas l'égalité et le coût des moyens consacrés à une école plus qu'à une autre, mais les besoins qu'ont des enfants dont l'origine sociale est défavorisée pour choisir leur avenir. Il faut plus de professeurs pour eux, car autrement, c'est la reproduction sociale qui va se réaliser et qui va rendre encore un peu plus hétérogène notre société qui manque déjà de cohésion. L'idéal républicain se joue là. Pas uniquement là, mais sans aucun doute là.
John Rawls, alors là, c'était vraiment aussi un besoin aussi pour vous, justement, de parler de ces inégalités que vous devez aussi voir au quotidien au travers de votre métier de professeur.
Moi, mon idée, alors bien entendu, on est confronté aux inégalités, et bien entendu, il y a un espèce de combat sans fin de l'éducation nationale contre ces inégalités et malheureusement une reproduction de ces inégalités. Mais il y a aussi, lorsque je lis les philosophes, donc John Rawls, à l'échelle de la philosophie, lorsqu'on lit Platon, c'était comme si c'était hier, mais il a publié son livre il y a 50 ans, dans un contexte de rivalité entre les États-Unis et l'URSS. Mais déjà, il pointait la question sur un problème, et là, je n'ai pas eu l'occasion de le développer dans ma lecture, qui est la discrimination positive, c'est-à-dire l'idée que certains doivent être davantage favorisés par rapport à d'autres pour gommer des inégalités sociales qui ne sont pas liées à leur intelligence, parce que les enfants, bien entendu, qui sont dans des écoles moins favorisés ne sont pas moins intelligents, et souvent même, ils ont une intelligence, une énergie, une vivacité qui leur permettrait de faire des choses extraordinaires, mais qui sont empêtrés par toute une série de raisons dans des difficultés dont ils ont du mal à se sortir, et donc ils ont besoin de davantage de moyens. Et donc je trouve ça intéressant de même remonter à Jean-Jacques Rousseau, qui lui aussi pointait cette difficulté à son époque au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est cette idée-là, des allers-retours entre des problèmes concrets du XXIe siècle et des philosophes qui, parfois des siècles auparavant, avaient déjà une réflexion qui pouvait nous permettre de nous éclairer. Mais par contre, je précise, la philosophie, ce n'est pas dire la vérité. La philosophie, c'est justement d'essayer de pointer un problème, de circonscrire ce problème et d'essayer d'élaborer des concepts pour voir si ça fonctionne. Mais je ne suis pas un donneur de leçons non plus dans mes chroniques.
Vous citez en préambule du recueil David Hume, il y a une espèce de scepticisme antérieur à toute étude et à toute philosophie que Descartes et d'autres prônent comme un préservatif souverain contre l'erreur et la précipitation du jugement.
Oui, vous avez compris, un préservatif, ça n'avait pas le même sens à l'époque. Oui, alors tout à fait, ça c'est une... En fait, je ne m'en suis pas tout de suite aperçu, c'est un collègue... Philippe Vergès, un collègue de Sète, qui m'a expliqué que tout compte fait, mes chroniques ressemblaient beaucoup à des petits écrits de David Hume, qui est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, un contemporain de Rousseau, qui était extrêmement précautionneux dans sa manière de faire, de réfléchir, et s'apercevait bien qu'on tombait très très vite dans ce qu'on appelle des dogmes, c'est-à-dire des vérités définitives, et les gens avaient beaucoup de mal à remettre en question leurs propres opinions, et c'est ça que je cherche à faire aussi dans mes chroniques. Pas pour tellement les autres, mais aussi pour moi, pour une question d'hygiène intellectuelle.
Sur la table des matières, autre chronique, voilà qu'on peut citer, quand Trump décide de rencontrer Ménard, le peuple et ses deux définitions, corruption mon amour, la valse des porcs-épics, ou Saint-Augustin-Guéluron.
Voilà, Saint-Augustin-Guéluron. Saint-Augustin-Guéluron, c'est, s'il y a des spécialistes de Saint-Augustin des confessions, vous allez voir, je travaille sur un thème qui n'est pas très connu, le Saint-Augustin qui... pour ceux qui le connaissent, c'est un des pères de l'Église du IVe siècle, mais qui a eu une vie avant d'être évêque absolument extraordinaire, puisque je crois que son premier enfant, il l'a eu à 17 ans, il fréquentait les théâtres, les tavernes, avant de se convertir au christianisme. Et donc, il réfléchit sur le théâtre, et je me suis aperçu en lisant les confessions que ça ressemblait à la relation que nous avons avec les téléréalités.
Okay.
Et du coup, il m'a semblé que ce lien pouvait se faire, et c'est le but de cette chronique, Saint-Augustin Guéluron, c'est-à-dire Saint-Augustin qui nous explique... cette espèce d'addiction que nous avons, même si nous, beaucoup de gens disent qu'ils ne regardent pas la télévision, qu'ils ne regardent pas les téléréalités. Si elles passent à la télévision, c'est qu'elles ont un public. Et pourquoi est-ce qu'on est fasciné par tout compte fait des histoires qui ne sont pas toujours tout à fait naturelles et parfois, enfin très souvent, assez glauques?
Mais nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Je rappelle le titre du recueil Par Monts et Par Vaux. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce recueil?
Alors, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. En premier lieu, la librairie Un Point Entrée de l'Odève. Après, il est disponible sur Internet, sur Fnac.com, Cultura.com, etc. Et il est aussi disponible à la librairie des Hauts-Quartiers de Pézenas.
Voilà, jetez-vous sur ce recueil, ça fait beaucoup de bien de lire ce type de littérature par les temps qui courent. Et
merci.
Voilà, et on rappelle l'auteur Christophe Galic. Un grand merci et une très bonne journée à tous nos auditeurs.
Merci à vous.
Sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.